Chapitre 90. Le photographe. Saga, Yona et Pénélope la suivent à travers les différentes pièces du rez-de-chaussée et entrent dans une bibliothèque, une pièce plutôt étroite et éclairée par de petits carreaux sertis de plomb peints en jaune, marron et rose. Des livres sont rangés derrière des vitres. Le mobilier est en cuir et dans la cheminée sont disposés des samovars en cuivre. «
Pardonnez-moi de ne pas vous proposer quelque chose, mais je suis assez pressé. Je pars dans une heure. »
Le regard inquiet de Véronique Salmann erre un instant sur la pièce, et elle lisse sa robe du plat de la main, avant de poursuivre à voix basse.
« Je veux juste vous dire ce que j'ai à dire. Je ne témoignerai pas. Si vous essayez de me forcer à témoigner, je nierai tout ce que j'ai dit, quelles qu'en soient les conséquences. »
Elle tente de redresser un abat-jour, mais sa main tremble tellement qu'il se remet immédiatement de travers.
« Je pars sans Pontus. Il ne m'accompagnera pas. »
dit-elle en fixant le sol. Sa bouche frémit, et elle rassemble ses esprits un moment.
« Pénélope, »
dit-elle en la regardant dans les yeux,
« vous pensez que Pontus est une crapule, et je veux que vous sachiez que je vous comprends, mais ce n'est pas le cas, vraiment pas. Je n'ai pas dit «
Attendez, je vous en prie. »
l'interrompt-elle.
« Je veux simplement dire que j'aime mon mari, mais que je ne sais plus quoi penser de ce qu'il fait. » Avant, je me disais que les gens ont toujours échangé des armes. Le commerce d'armes existe depuis que l'homme existe. Ce n'est pas une excuse. J'ai travaillé à la sécurité au sein du ministère des Affaires étrangères pendant de nombreuses années. Et lorsqu'on fait ce genre de travail, on doit accepter qu'on est bien loin de l'utopie d'un monde sans conflit armé. En pratique, tous les pays doivent être dotés d'une force armée, mais il y a des nuances, c'est ainsi que je vois les choses.
Elle rejoint la porte, l'ouvre, regarde dehors et la referme.
Exporter des armes dans des pays en situation de guerre, soutenir des conflits en fournissant des armes, on n'a pas le droit.
Non, chuchote Pénélope.
Je comprends Pontus en tant qu'homme d'affaires,
poursuit Véronique Salmann,
car Silencia avait vraiment besoin de ce contrat. Le Soudan est un grand pays, dont l'approvisionnement en munitions pour leurs fusils d'assaut est instable. Ils n'ont recours qu'à Fabrique Nationale, et la Belgique ne leur livre visiblement pas de munitions. Tous les regards sont braqués sur eux, mais la Suède n'a jamais été une puissance coloniale, et nous avons bonne réputation dans la région. Pontus a vu les possibilités du marché et a vite réagi lorsque la guerre civile au Soudan s'est terminée. Raphaël Guidi a organisé l'affaire. Il devait signer le contrat. Tout était prêt, mais la Cour pénale internationale de La Haye a émis un mandat d'arrêt contre le président El-Béchir à cause de son implication dans le génocide au Darfour.
« Cette exportation enfreindrait la législation internationale, »
dit Saga.
« Tout le monde le savait, mais Raphaël n'a pas voulu mettre un terme à l'affaire. Quelques mois ont passé, puis il a expliqué que l'armée du Kenya voulait récupérer le contrat. Il s'agissait de la même quantité de munitions et du même prix. J'ai essayé d'en parler avec Pontus. Je lui ai dit qu'il était évident que les munitions étaient destinées au Soudan, mais Pontus m'a juste répondu que le Kenya avait sauté sur l'occasion, que c'était une bonne affaire et qu'ils avaient besoin de munitions. Je ne sais pas s'il y croyait lui-même. Je ne pense pas. Mais quoi qu'il en soit, il s'est entièrement défaussé de sa responsabilité sur Karl Palmkrona et l'ISP. Si Palmkrona signait l'autorisation d'exportation, alors tout était en ordre et d'après lui,
c'est trop facile, dit Pénélope.
C'est pour ça que j'ai pris la photo. Je suis entré et j'ai pris une photo avec mon portable en prétendant téléphoner. J'ai expliqué à Pontus que je ne me sentais pas bien et que j'allais prendre un taxi pour rentrer à l'hôtel.
C'était courageux,
dit Pénélope.
Mais je ne savais pas à quel point c'était dangereux. Sinon je ne l'aurais jamais fait. J'en voulais à Pontus. Je souhaitais le faire changer d'avis. J'ai quitté l'Alte Oper au milieu du concert et j'ai regardé la photo dans le taxi. C'était du grand n'importe quoi. Comme vous le savez, l'acheteur était représenté par Agathe Aladji. Elle est tout de même le conseiller militaire du président soudanais. Je veux dire, les munitions seraient directement injectées dans cette guerre civile dont personne ne voulait entendre parler.
Génocide, chuchote Pénélope.
Lorsqu'on est rentré, j'ai dit à Pontus qu'il fallait qu'il se retire. Je n'oublierai jamais son regard lorsqu'il m'a répondu que c'était impossible. J'ai conclu un pacte Paganini, disait-il. Lorsque j'ai vu son expression, j'ai pris peur. Il semblait terrifié, Je n'osais pas garder la photo sur mon téléphone. Je l'ai donc imprimée, puis effacée de la carte SIM et du disque dur de l'ordinateur, et je vous l'ai envoyée.
Véronique Salmane est assise devant Pénélope, les bras ballants et le visage fatigué.
« Je ne savais pas ce qui allait arriver, » dit-elle à voix basse. « Comment aurais-je pu le savoir? Je suis tellement, tellement navrée. Je ne peux pas vous dire. »
Le silence s'installe un moment dans la pièce. Au loin, vers la piscine, ils entendent le bruit d'un meuble que l'on tire sur le sol.
« Qu'est-ce qu'un pacte Paganini ?» demande Yona.
Raphaël possède plusieurs violons d'une valeur inestimable. Il collectionne les instruments sur lesquels Paganini jouait, il y a plus de 100 ans. Certains d'entre eux sont chez lui. Il en prête d'autres à des musiciens professionnels et...
Il se caresse nerveusement les cheveux avant de poursuivre.
Cette histoire de Paganini, je n'ai pas tout compris, mais Pontus dit que Raphaël relie Paganini au contrat. Il dit que ces contrats sont éternels. Aucun document n'est signé, c'est... un pacte. Pontus m'a raconté que Raphaël avait tout préparé. Il avait tous les chiffres en tête, il connaissait la logistique par cœur et savait exactement quand et comment l'affaire devait être conclue. Il a informé toutes les personnes concernées de ce qu'il exigerait d'elles et des sommes qu'elles allaient gagner sur cette affaire. Une fois qu'on lui embrasse la main, il n'y a plus d'issue possible. On ne peut pas fuir, pas se cacher, pas même mourir.
Pourquoi pas ? Demande Yona.
Raphaël est tellement... Je ne sais pas, il... C'est tellement affreux, dit-elle la bouche tremblante. Il réussit à soutirer. Il fait dire à toutes les personnes impliquées comment ils se représentent leur pire cauchemar.
Comment ça ? Demande Saga.
C'est ce que disait Pontus. Il disait que Raphaël a ce don, répond-elle avec sérieux.
Mais qu'entend-il par cauchemar ? Demande Yona.
J'ai évidemment demandé à Pontus s'il lui avait dit quelque chose. Je lui ai évidemment posé la question, dit-elle stressée. Mais il refuse de répondre, je ne sais pas quoi penser.
Un silence de plomb règne dans la petite bibliothèque. De grosses auréoles de transpiration sont apparues sur la chemise blanche de Véronique Salmane.
Vous ne pourrez pas arrêter Raphaël, dit-elle après un moment en regardant Yona droit dans les yeux. Mais vous devez veiller à ce que les munitions n'atteignent pas le Darfour.
Nous allons le faire, dit Saga.
Vous comprenez que le fait que l'agitation après les élections au Soudan ne se soit pas transformée en pure catastrophe dépend en grande partie de la pénurie de munitions. C'est, je veux dire, si ça se complique davantage, les associations humanitaires quitteront le Darfour.
Véronique Salmane consulte sa montre, dit à Yona qu'elle doit bientôt se rendre à l'aéroport, puis s'approche de la fenêtre. Elle regarde rêveusement à travers la vitre colorée.
« Mon petit ami est mort, »
dit Pénélope en essuyant des larmes sur ses joues.
« Ma sœur est morte. Je ne sais combien d'autres encore. »
Véronique Salmane se tourne vers elle.
« Pénélope, je ne savais pas quoi faire. J'avais cette photo. J'ai pensé que si quelqu'un était susceptible d'identifier les personnes dans la loge, c'était bien vous. J'ai pensé que vous comprendriez mieux que quiconque ce qu'impliquait le fait qu'Agathe Aladji achète des munitions. Vous avez vous-même été au Darfour. Vous avez des contacts là-bas. Vous œuvrez pour la paix et...
Mais vous avez eu tort, l'interrompt Pénélope.
Vous avez envoyé la photo à la mauvaise personne. Je connaissais Agathe Aladji, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi elle ressemblait. Je ne pouvais pas envoyer la photo à la police ou à la presse. Ils n'auraient pas compris ce que ça signifiait, pas sans explication, et je ne pouvais pas expliquer les circonstances. Comment aurais-je pu ? C'était impossible. Si j'avais compris une chose... C'était que je ne devais pas être associé à la photo. Alors je voulais envoyer. Je voulais m'en débarrasser. Je savais que je ne pourrais jamais dévoiler mon lien avec elle.
Mais maintenant vous l'avez fait, dit Yona.
Oui, parce que je...
Pourquoi ? Demande-t-il. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Parce que je vais quitter le pays et que je dois...
Elle se tait et regarde ses mains.
Que s'est-il passé ?
« Rien, »
dit-elle entre ses larmes.
« Vous pouvez nous le dire. »«
Non, c'est... Faites-nous confiance, » chuchote Saga.
Véronique essuie ses yeux et relève la tête.
« Pontus m'a appelé de notre maison d'été. Il ne faisait que pleurer en me demandant pardon.
Je ne sais pas ce qu'il entendait par là, mais il m'a dit qu'il allait tout faire pour échapper à son cauchemar.